ici.
ICI.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 5h. Ici, vos chansons françaises préférées.
Quand vous recevrez ce petit billet.
Henri Salvador à Cannes cet été. La chanson préférée d'Eddy Mitchell.
Henri, c'était pas simplement le rigolo qu'on a bien voulu voir à travers la télévision, à travers tous ses sketchs. Mais c'était aussi un grand, grand crooner. Et d'ailleurs, moi, je l'appelais mon Ed King Cole à moi. Vous savez que, enfin, peut-être les plus anciens s'en souviennent, que nous l'avons chanté d'ailleurs ensemble, oui, oui, pour une émission de télé, oui, 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 oui.
Quand vous recevrez...
Vous aussi, vous aimez Henri ? Écoutez ici.
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 Vous écoutez ici.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Ma France, par ici les économies. Notre objectif chaque semaine, vous le connaissez, c'est de vous redonner du pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux voitures et au marché de l'occasion. Comment acheter un véhicule de seconde main en minimisant les risques, faire de bonnes affaires, que dit la loi ? On va tout vous dire avec notre invité. Bonjour Benjamin Cuc.
Bonjour Valère.
Bienvenue, vous êtes notre expert auto pour notre radio locale ici. Je vous propose de commencer avec une première question d'auditeur.
Oui, bonjour, c'est Marc. Juste une question. Si je vendais ma voiture d'occasion, est-ce que je serais taxé sur le prix à la vente ? Merci.
Alors Benjamin, la question de Marc, hyper simple. Est-ce qu'on est taxé quand on vend sa voiture d'occasion ?
Non, normalement, non. Mais si c'est une voiture de collection et qu'elle coûte plus de 5000 euros, on peut être taxé sur la plus-value. C'est-à-dire que si vous avez acheté une Porsche de collection, pour citer une marque qui vaut cher, que vous l'avez payé 60 000 et que vous la revendez 100 000, vous pouvez être taxé sur la plus-value. Voilà. Mais il faut qu'elle ait plus de 30 ans, la voiture, qu'elle soit considérée en collection. Sinon, il n'y a aucune taxe sur les ventes d'occasion. Même si vous faites un petit bénéfice dessus, il n'y a aucune taxe dessus.
Bon, bah pour une fois qu'il n'y a pas de taxe, on prend ça. Voilà. Ok, ça commence bien. Où est-ce que vous nous conseillez d'acheter une voiture d'occasion ? C'est un peu la question socle, là.
Globalement, plutôt chez un particulier, parce que c'est toujours moins cher que chez un professionnel, parce qu'il n'y a pas de commission. En revanche, il n'y a pas de garantie. Une solution qui est encore moins chère, mais relativement aléatoire, qui se fait de plus en plus, c'est les retours de leasing qui sont vendus aux enchères. C'est-à-dire qu'il y a des maisons de vente aux enchères, il y en a pas mal dans le Nord, qui, pour nos auditeurs du Nord, qui vendent aux enchères des voitures qui sont des retours de leasing et qui les vendent. Et souvent, on peut trouver un bon prix, on peut taper un bon prix sur des voitures. Faut pas s'attendre non plus à trouver une Clio ou une Sandero, la voiture de tout le monde. C'est plutôt si vous cherchez quelque chose d'un peu original, ou d'un peu puissant, vous pouvez faire une bonne affaire par rapport au prix du marché que vous le paieriez chez un concessionnaire.
Donc Benjamin Cuc, ce que vous nous dites, c'est que c'est bien d'acheter une voiture d'occasion auprès d'un particulier, mais est-ce que ça demande des connaissances particulières ? Est-ce qu'il faut s'y connaître un peu en mécanique, savoir ouvrir un capot, sentir un peu la machine ou pas ?
Non, faut le contrôle technique. Faut que le contrôle technique soit à jour, soit validé. Et voilà, c'est tout. Quoi. Globalement, c'est un risque. On achète une voiture d'occasion, mais ça dépend toujours si le délai de la voiture. Et puis surtout, elle peut avoir une garantie. Si vous achetez des coréennes garantie 7 ans ou 5 ans, et que vous l'achetez au bout de 2 ans, vous n'avez aucun risque.
La garantie se transmet.
La garantie est cessible avec la voiture. Toutes les garanties sont cessibles avec les voitures.
C'est pas mal, ça. On a beaucoup entendu dire que les voitures d'occasion étaient devenues plus chères ces dernières années. Où en est le marché ? Ça se détend ? C'est le cas ? Oui, non ?
Non, ça se détend pas vraiment. Il y a une petite baisse de l'ordre de 500 euros en moyenne, mais écoute, toujours en moyenne 25 000 euros une voiture d'occasion. Je crois que là on est à peu près à 25 000 euros. Et parce qu'il y a une pénurie de voitures, c'est que les constructeurs ont réduit la production de voitures, ils produisent la demande, il n'y a plus de stock. Et donc ça c'est les constructeurs qui ne font plus ça. Et en plus, comme il y a du malus, les gens cherchent plutôt des voitures sans malus. Comme l'effet du malus, c'est la courbe de l'affaire en économie. C'est-à-dire que quand on met trop d'impôts à la fin, ça nuit à la consommation.
Certains modèles thermiques récents voient même leur prix remonter. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe, c'est toujours l'effet malus. Mmh. C'est-à-dire que si vous avez payé 10 000 euros de malus sur une voiture, vous le répercutez sur le prix de l'occasion. Donc la voiture qui valait 50 000 plus 10 000 euros de malus, elle valait 60 000. Donc après un an, elle vaut toujours 50 000.
Par contre, quand on achète une voiture d'occasion, le bonus ou le malus, ils sont derrière nous. C'est au moment, c'est au neuf, ça, que ça s'applique.
C'est au neuf. Le malus ne s'applique que sur le neuf. Il était envisagé de mettre un malus cessible pour les gens qui n'avaient pas payé le malus. Mais c'est une telle usine à gaz que Bercy a renoncé à le lancer. C'est-à-dire que si vous aviez trois enfants, comme par exemple vous, je crois, vous aviez le droit à une exonération de malus. Sauf que la personne qui rachetait votre voiture pouvait se retrouver avec des malus en moins, le malus pas payé, donc il fallait repayer le malus. Pareil pour les voitures de handicapés, pareil pour les taxis, les choses comme ça. Tous les véhicules qui étaient non malusés, qui étaient exonérés de malus, se retrouvaient possiblement malusés. Donc sauf que ça, il y avait une distorsion et que les gens se retrouvaient à devoir payer un malus pour quelque chose qu'ils ignoraient. Surtout quand on est à la troisième ou quatrième mutation de la voiture, c'est-à-dire qu'elle a été vendue trois fois, vous retrouvez une voiture qui n'a jamais payé de malus, ah vous devez 10 000 euros. Ah non, il n'est pas question que je paye 10 000 euros, même 5 000 euros.
J'étais en train de penser à une chose, en même temps que vous nous expliquiez ça, et c'était hyper intéressant. J'avais fait un test, je voulais vendre ma voiture d'occasion, vous savez, sur les plateformes en ligne où on peut saisir et puis ils vous font une évaluation à distance là. Et en fait une amie m'avait dit, mais attention, parce que l'évaluation qu'ils font là à distance, ils vont encore plus descendre derrière quand tu vas amener la voiture et que tu vas la présenter. C'est vrai ça qui est ça.
C'est le principe du pied dans la porte.
Ouais.
Vous savez, vous laissez entrer un vendeur, il vous l'a mis le pied dans la porte, vous êtes déjà un peu engagé, donc il va vous proposer, je vais dire, 6000 euros sur votre véhicule et il va le voir, il va dire, oh mon pauvre monsieur Correa, votre voiture là, elle valait 6 000 euros, mais là, il y a une micro-rayure là, j'ai 300 euros de facture, et puis vous n'avez pas tout le carnet d'entretien, moi je prends une garantie, je vous en offre 4 500. Et comme vous êtes pressé de vendre vos voitures, parce que soit vous avez besoin d'argent, ce qui arrive à beaucoup de gens, et malheureusement, soit vous avez déjà commandé l'autre et que vous avez déjà lorgné l'autre et que vous réservez l'autre, vous dites, ok, allez, banco, ils me proposent 4 500, allez, 5 000, et puis hop, et vous perdez 1000 balles dessus.
Ça veut dire, Benjamin, que vous nous conseillez aussi de vendre auprès de particuliers si possible, plutôt que de passer par.
Oui, c'est toujours plus avantageux. C'est toujours plus avantageux de vendre un particulier qu'un repreneur. Sauf si, effectivement, si vous allez chez le concessionnaire, que vous achetez la voiture, vous savez comment ça se passe, mais là, vous n'avez pas le problème de. C'est pas votre problème, mais c'est ça, c'est un problème de riche.
C'est bien que vous en parliez. Quand on va chez un concessionnaire pour acheter une nouvelle voiture, on peut négocier la reprise de l'ancienne. Ça, c'est un moyen de la revendre.
Évidemment, moi, j'ai revendu une vieille voiture que j'avais. Il me proposait 2500. J'ai dit, 3500. Et puis, à la fin, on est tombé à 3000, quoi.
Ouais, donc c'est pas mal.
C'est pas mal.
Ouais. Les zones à faible émission, les ZFE, on en a beaucoup parlé. Alors, au niveau national, c'est en train de bouger, mais enfin, au niveau local, ça peut exister encore. Est-ce que ça influe sur le marché de l'occasion, ça, et notamment sur le type de véhicule ?
Paradoxalement, non. Ça influe moins que prévu sur le marché de l'occasion, parce que les voitures des ZFE, les critères 4 et 5 qui sont exclus des ZFE, ne sont quasiment plus en circulation. C'est vraiment des vieux tacos, des voitures de collection. Et s'il n'y a pas 100 voitures de collection, elles ont le droit de rouler dans les ZFE. Il y en a de moins en moins parce qu'elles commencent vraiment à sortir. Le parc automobile a presque 12 ans, mais 12 ans c'était 2014 maintenant. On est quasiment, on était déjà en critère 3 globalement. Donc il y en a de moins en moins. Et puis à un moment, une voiture ça change. Une voiture qui a 20 ans, elle est usée. Même si vous l'avez parfaitement entretenue.
Oui.
C'est un moment, il y a aussi des questions de sécurité, c'est que si vous avez un accident avec, bonne chance.
Acheter un diesel, c'est toujours un bon plan. Aujourd'hui, j'ai vu que les prix à la pompe, on va en parler tout à l'heure, des prix à la pompe, mais enfin, ça monte pour le diesel aussi.
Le diesel se maintient. On a fait un sujet dans Rouler Malin il n'y a pas très longtemps, on a fait une chronique Rouler Malin dessus. C'est-à-dire que le diesel se maintient parce qu'il intéresse encore des très gros rouleurs. Si vous faites 30 ou 40 000 km par an, et que vous avez besoin d'une voiture qui roule sur autoroute, parce que vous faites 30 000 km d'autoroute. Si vous êtes 30 000 km de voiture par an, il faut mieux acheter une électrique. Mais sinon, 30 000 km par an d'autoroute, c'est bien d'avoir un diesel. Mais il y a l'alternative, c'est prendre une essence et l'équiper d'une puce, d'un bloc biomoteur super éthanol, qui là vous permettra de rouler beaucoup moins cher et de rouler énormément de kilomètres à 80 centimes maximum le kilomètre. Le litre d'essence, pardon, le litre de super éthanol.
Si on veut acheter un véhicule d'occasion aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous conseillez justement pour le carburant, essence, diesel, hybride, électrique ? Quelle est la motorisation la plus optimale ?
Ça dépend de l'usage que vous en avez, Valère. J'ai envie de vous dire, pour une occasion, si vous faites beaucoup de kilomètres, mais à peu de distance, vous faites 70 km par jour, moi je vais régulièrement à Melun en ce moment, je suis très heureux d'avoir une voiture électrique. je vais tous les trois jours, je vais à Melun. Je suis très heureux d'avoir une voiture électrique. Parce que ça me fait, ça me coûte 2,50 € de l'aller-retour en voiture électrique à Melun. Tandis que si, parce que c'est à 60 km de Paris et que j'habite à Paris, donc je fais 120 km à chaque fois, ça me coûte 2,50 €. Par contre, si j'ai fait que de l'autoroute sur de la, voilà, prenez un essence que vous montez à l'éthanol ou sinon un diesel, mais parce que vous aimez le diesel, mais moi globalement je suis pas très fan du diesel.
Bon, en tout cas pour les petits circuits, l'électrique c'est bien, mais enfin quand on l'achète d'occasion, on a toujours cette peur de la batterie, hein, c'est un peu le gros sujet. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire vis-à-vis de ce point particulier, de vérifier sur un véhicule électrique?
Bah, la batterie, d'occasion. La batterie. Et là, le problème, c'est que les constructeurs jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'état de sa batterie spontanément. Il faut aller le demander chez le constructeur pour savoir ce qu'on appelle le SOH, ce qui est le système, en anglais, je sais plus ce que ça signifie, mais c'est l'état de la batterie. Et les constructeurs jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'on pourrait l'avoir dans son application, mais ils ne le mettent pas, et ils vous le donnent si vous y allez. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est que tous les constructeurs garantissent leur batterie 8 ans. C'est-à-dire que si vous achetez une occasion qui a 3 ans ou 4 ans, si vous arrivez à moins de 80% de batterie, vous pouvez demander auprès du constructeur le remplacement de la batterie.
C'est bon à savoir, ça. C'est pendant 8 ans.
C'est pendant 8 ans. Tous les constructeurs se sont engagés à ça. 8 ans de garantie minimum sur la batterie. C'est-à-dire que même si votre voiture n'est plus sous garantie, une Skoda ou une Volkswagen qui a 2 ans, ou une Renault qui a 2 ans n'est plus sous garantie, mais ou une BMW ou une Mercedes, tous les constructeurs qui proposent que 2 ans de garantie, malheureusement, si leurs batteries sont quand même garanties 8 ans.
Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on achète une voiture d'occasion auprès d'un particulier notamment? Parce que c'est là que le risque juridique, il est.
Oui, vérifier un contrôle technique. C'est le contrôle technique qui fait foi. C'est-à-dire que il est présumé de bonne foi, le vendeur, parce qu'il n'est pas un professionnel de l'automobile. Mais n'importe qui, un professionnel de l'automobile, c'est bien défini, c'est un garagiste.
Ouais.
Je veux dire, même moi qui écris et parle d'automobile depuis 30 ans bientôt, je ne suis pas un professionnel de l'automobile. C'est un garagiste, le professionnel de l'automobile. Donc, il n'y a pas de garantie. Sauf sur le vice caché, mais là, c'est un...
Pour
le faire jouer, bon courage.
Donc, le contrôle technique, c'est
le
vraiment...
Le contrôle technique, il faut qu'il soit à jour.
Ok. Bonjour, Jean-David.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur notre radio locale ici. Vous êtes chargé de mission et d'animation de la Fédération Solidaroto. C'est un réseau de garages solidaires. Qu'est-ce que c'est un garage solidaire, Jean?
Eh bien, écoutez, c'est un garage, effectivement, qui est porté par une association d'intérêt général et qui a pour mission de faciliter l'accès à la mobilité, donc à des personnes plutôt en précarité de mobilité. On estime qu'en France, aujourd'hui, il y a à peu près 15 millions de personnes qui sont empêchées de bouger. Mmh. Alors, quand je dis empêchées de bouger, ce sont soit des gens qui n'ont pas du tout de moyens de locomotion, c'est notamment dans les milieux ruraux, ou ce sont des gens qui ont des véhicules, mais des véhicules à risque. Des véhicules aux freins fatigués, usagés, des embrayages en fin de vie. Et effectivement, notre objectif, c'est de répondre et de faciliter l'accès à ces gens-là qui sont en précarité.
Et alors Jean, je vous ai invité, aujourd'hui on parle des véhicules d'occasion, on sait qu'un véhicule d'occasion il a besoin d'un entretien, et peut-être encore plus qu'un véhicule neuf. Le principe aussi dans vos garages solidaires, c'est que le prix est, j'allais dire dérisoire, peut-être pas dérisoire, mais en tout cas c'est beaucoup plus accessible, l'accès à la réparation est beaucoup plus envisageable, même quand on est dans la difficulté.
Alors, tout simplement parce que, ce qu'il faut bien savoir, c'est que nos garages restent des garages de professionnels avec des salariés qui sont vraiment des mécaniciens et chefs d'atelier patentés et professionnels. Mais notre modèle économique repose sur le don de voiture. C'est-à-dire qu'un particulier ou une entreprise fait don de son véhicule. Donc, moyennant, il y a un avantage fiscal puisque un particulier va déduire 66% du don qu'il a effectué, une entreprise 60%. Ce véhicule, si son état le permet, on va le remettre en état. Et effectivement, on va le proposer à un tarif aux alentours de 3 000 €. Et c'est ce modèle économique-là qui va nous permettre de financer la structure de nos garages, qui sont des garages qui s'autofinancent, et permettre également de proposer à ses bénéficiaires des tarifs qui sont aux alentours de 40 € de l'heure pour une réparation, éventuellement des locations, puisqu'on touche à la location, à des tarifs accessibles pour des gens qui ont des promesses d'embauche.
Benjamin,
vous ne faites pas de garage participatif, c'est-à-dire que vous n'aidez pas les gens qui veulent faire eux-mêmes leur réparation, est-ce qu'il y a aussi le modèle du garage participatif?
Non, du tout. D'accord. Alors pourquoi? C'est un choix volontaire. Pourquoi? Parce qu'on estime que la mécanique est un métier sérieux. engageant, sécuritaire, qui suppose effectivement que ce soit plutôt le fait de professionnels. Donc on a pris ce parti pris. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a tout un réseau de garages solidaires parce qu'il y a différents modèles qui, eux, font du self-garage, qui font aussi de l'insertion professionnelle. Nous, on a vraiment voulu répondre à cette problématique de mobilité, mais en restant des garages de professionnels au service de bénéficiaires.
En tout cas, c'est vraiment top et bravo pour ce travail que vous faites sur le terrain. C'est un vrai service et donc à l'issue aussi des véhicules d'occasion retapés, réparés à des prix qui normalement n'existent pas sur le marché. Merci Jean-David. Je le rappelle, vous êtes chargé de mission et d'animation de la Fédération Solidar Auto. C'est solidarauto.org pour vous qui nous écoutez si vous voulez en savoir plus.
Ici, avec Valère Coréard, par ici les économies.
On est en version magazine. Le thème aujourd'hui, comment bien choisir une voiture d'occasion, comment l'entretenir aussi, bien sûr, la choisir, la vendre, avec Benjamin Cuc, notre expert auto maison. On vous retrouve d'ailleurs tous les week-ends sur l'antenne avec vos chroniques que je recommande bien sûr et elles sont podcastables. On va recevoir aussi Clément Salmeron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Stockauto. Qu'est-ce que c'est Stockauto ?
Donc Stockauto, c'est une application et un site internet spécialement conçu et dédié à la pièce automobile. Donc c'est ouvert à tout le monde, aux professionnels comme aux particuliers, comme aux casseurs, aux collectionneurs, à tous les amateurs de mécanique, mais aussi aux simples automobilistes. Donc Stockauto, ça sert vraiment à vendre et à pouvoir acheter facilement sa pièce automobile. C'est-à-dire que plutôt que de pouvoir déposer votre pièce sur un site généraliste, là, on a mis en place et étudié un système qui permet vraiment facilement de vous guider dans la façon de poser votre pièce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vend une optique avant droit, il va des fois marquer optique avant droit, mais des fois il va marquer phare PH, des fois phare avec un F, des fois il va marquer feu. Bref, sur le site des généralistes, c'est vraiment, ça va être compliqué de retrouver votre pièce. Là, avec le système qu'on a fait, on va vraiment pouvoir mettre la marque, le modèle, la famille de produits et trouver vraiment la pièce qu'on cherche facilement, en fait.
Oui, donc des pièces d'occasion qu'on trouve sur votre site avec ce service, on va dire de bien qualifier les différentes caractéristiques. Comment est-ce que vous garantissez la qualité des pièces qui sont vendues sur votre boutique en ligne ?
Alors, on a mis plusieurs systèmes en place. Déjà, on permet de mettre gratuitement jusqu'à 8 photos de la pièce, donc ce qui permet de pouvoir bien examiner avant de l'acheter. Et ensuite, une fois votre pièce reçue, on a instauré un délai de rétractation de 4 jours pour les particuliers. Donc ça permet vraiment de pouvoir poser sa pièce, de la tester en 4 jours, vraiment de voir s'il y a un problème ou pas, pour pouvoir la renvoyer gratuitement. Ensuite, vous pouvez acheter aussi un professionnel. Dans ce cas-là, on a instauré un délai de 14 jours, sachant que sur le site, on peut aussi acheter des pièces neuves. Parce que moi, je suis garagiste et ça arrive des fois de commander une pièce. On s'est trompé de modèle, le carton est abîmé, on peut pas le renvoyer. Donc on peut aussi vendre des pièces neuves qui sont encore sous garantie constructeur. Et le site permet aussi de pouvoir acheter à des casseurs agréés VHU. Donc d'accord, c'est des pièces des fois qui peuvent être garanties 6 mois ou un an, selon le descriptif.
Benjamin Cuc, on parlait des véhicules d'occasion. Les pièces d'occasion, c'est aussi un bon plan pour entretenir la voiture ?
Oui, à part les pièces d'usure qui sont les freins, ouais, ou globalement, ou les filtres, on peut acheter tout d'occasion. J'ai une aile avant gauche de Clio neuve ou une aile avant gauche de Clio d'occasion. C'est la même chose. Hein. C'est pas, au contraire, c'est même plutôt bien, parce que sinon, avant, ça partait à la ferraille, c'était compressé, c'était recyclé. Là, au moins, ça a une deuxième vie.
Clément Salmeron, pour Stockauto, est-ce que niveau prix, c'est vraiment rentable par rapport au prix du neuf, là, les pièces d'occasion que vous vendez ?
Alors oui, parce que souvent, c'est des pièces qui auraient dû finir à la poubelle. Donc l'intérêt des gens, c'est de prendre un petit billet plutôt que de créer des déchets, on va dire. On cherche plus les gens qui viennent avec un état d'esprit d'éco-responsabilité que de rentabilité, on va dire. Moi, personnellement, je suis garagiste. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'ai un client qui a perdu son cache anti-brouillard sur son pare-choc. Et bizarrement, le constructeur ne vend que les deux. Donc on est obligé d'acheter la paire. Donc il y avait toujours un des deux qui finissait à la poubelle. Là, la pièce, on l'a quasiment pas payée, quoi. Elle est gratuite. Donc plutôt que de la mettre à la poubelle, on va la vendre 10 euros. On a beaucoup de pièces à 10 euros et moins, voire des fois.
Oui, parce que les constructeurs ont aussi une vilaine manie, c'est de ne pas détailler les pièces. C'est-à-dire que si vous changez un pare-choc, il peut y avoir plusieurs pièces sur le pare-choc, et le constructeur va dire oh, bah, je vous vends tout le pare-choc. Donc alors que vous avez juste un morceau du pare-choc à changer. Mais voilà, non, en fait, non, c'est démerdez-vous.
Merci en tout cas. Merci beaucoup Clément Salmeron, je le rappelle, vous êtes fondateur de Stockauto. Merci d'être venu sur notre radio locale ici.
Merci beaucoup.
Stockauto.fr. Alors il y en a d'autres, hein. aux pistaux, aux vocaux, Oscaro et j'en passe. Par ici des économies, @radiofrance.com pour participer à l'émission. Benjamin Cuc, notre expert automobile maison. Avant de nous quitter, vous allez vous prêter au jeu de notre quiz Le Vrai Faux pour finir avec les idées claires sur ce thème des voitures d'occasion. Première question, vrai ou faux, acheter une voiture d'occasion à un particulier est toujours moins cher que chez un professionnel.
Le vrai, globalement.
Mais on fait attention quand même.
Il faut faire attention.
Regarde bien le contrôle technique.
Toujours.
Bien retenu. Une voiture diesel consomme en général moins de carburant qu'une voiture essence équivalente. C'est vrai ou c'est faux ?
Vrai, mais ça coûte plus cher à l'entretien, un diesel.
Une voiture électrique d'occasion doit forcément avoir changé de batterie avant d'être revendue.
Pas du tout, non. Faux.
Rappelez-nous la règle sur les batteries.
Les batteries sont garanties 8 ans par le constructeur. Donc si vous achetez une voiture qui date de 2022, elle a encore 4 ans de garantie sur sa batterie.
Avec la hausse des prix du carburant, il vaut mieux quand même se tourner vers des véhicules d'occasion qui consomment peu.
Oui, c'est vrai. Et on peut aussi installer un kit bioéthanol qui vous permettra de consommer beaucoup moins de carburant à la pompe. Ça consomme un peu plus à l'usage, mais ça coûte beaucoup moins cher à la pompe.
Autre question, Benjamin, pour ce quiz. Les voitures issues de flottes d'entreprises sont souvent bien entretenues. C'est un bon plan pouvoir d'achat.
Oui, mais malheureusement, soit on les achète aux enchères, les enchères dont on parlait tout à l'heure, soit elles sont récupérées par les concessionnaires et ils ne vous disent pas qu'elles sont vendues par des... qu'elles viennent de flottes. Ce sont des retours de leasing.
Vrai ou faux, les petites voitures japonaises sont souvent réputées parmi les plus fiables sur le marché de l'occasion.
Ah, c'est tout à fait vrai. Les coréennes aussi. Les meilleures, et même c'est une japonaise française, puisque c'est la voiture la plus fabriquée en France, c'est la Toyota Yaris, qui est littéralement increvable, qui est remarquable. Et donc, comme elle est fabriquée en France, bah, autant faire bosser les usines en France. Et sinon, vous avez la Suzuki Swift, qui est très très bien aussi, et que je recommande.
Benjamin Cuc, expert automobile pour notre radio locale ici. On vous retrouve tous les week-ends. Merci beaucoup pour vos éclairages. J'espère que vous y voyez plus clair, vous qui nous avez écoutés sur votre radio locale ici. Alors, pour réécouter l'émission, mais aussi toutes les autres, c'est sur ici.fr. La semaine prochaine, on va voir toutes les solutions de partage autour du logement. Ça va être passionnant et surtout, on va faire des économies.
Ici.
Ici.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Na-na-na-na. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalot cherchent du regard un spot de Dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. La fille aux yeux pantalons
entre toi et moi, je n'en pouvais plus. Elle n'en a jamais rien su. Ma plus jolie des mythos, couleur mentalo.
Vous écoutez ici.
Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heated time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo.
Vous écoutez ici.
Imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats pour changer. Des paroles comme des pétales.
les chroniques, les conseils, les bons plans, à tout moment.
Bonjour à tous et bienvenue dans Ça tourne, votre émission cinéma. Ici, on parle de 7e art comme nulle part ailleurs et on vous révèle les coulisses de tournage de nos films. Et aujourd'hui, direction la Bretagne, sur l'île d'Ouessant, où a en partie été tourné un film captivant, inspiré d'une incroyable histoire vraie, celle d'une jeune femme, au 16e siècle, abandonnée sur une île déserte pour être tombée enceinte suite à un viol. Sacrilège, hein, puisqu'elle n'est pas mariée et qu'elle était promise à son oncle. Tout un fabuleux programme à découvrir dans l'île de la Demoiselle au cinéma mercredi prochain.
Avant d'embarquer pour le Nouveau Monde, vous rencontrez Thomas d'Artois dont vous tombez amoureuse.
Séduite, votre majesté, pas amoureuse.
La demoiselle Marguerite de la Roque est accusée d'avoir souillé l'honneur du vice-roi du Canada à qui elle était promise. Sa grossesse adultérine est un péché punissable de mort.
Marguerite porte mon enfant. Il est hors de question que vous l'abandonniez ainsi.
Ce misérable a choisi son sort, cette île sera son tombeau.
Extrait du film L'île de la Demoiselle avec Alexandra Lamy, Louis Pérez et Salomé de Wals dans le rôle titre qui est notre invité en compagnie aujourd'hui du réalisateur Micha Wald et de la chef costumière Tzigane de Braconnier. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et soyez les bienvenus. Alors on va revenir tout au long de cette émission sur ces 32 jours de tournage hyper épique puisque vous avez tourné sur une vraie île avec les éléments qui ont été déchaînés contre vous. Mais d'abord, Micha Wald, juste un mot de l'histoire. C'est donc une histoire vraie, vraiment?
Tout à fait.
Marguerite de la Roque a survécu 3 ans sur une île, c'est pas une légende?
C'est pas une légende, c'est attesté par 3 textes. Il y a le texte de la Reine de Navarre et puis il y a eu 2 autres récits au XVIe siècle, dont une interview de Marguerite de la Roque une fois qu'elle est retournée en France après son périple. Il y a un moine qui est allé la rencontrer et qui l'a interviewée.
Salomé de Wals, on vous a découverte dans le film de Xavier Giannoli, Illusion perdue, en 2021. Et ici, vous êtes de tous les plans dans ce film, puisque vous y tenez le rôle principal. Alors là, en vous replongeant dans vos souvenirs de tournage sur l'île d'Ouessant, si vous faites appel à vos souvenirs, quel moment le plus épique vous revient en tête, là, sans réfléchir?
C'est marrant parce que finalement, on a quand même dû beaucoup construire le froid, la faim, parce qu'on dit qu'il pleut beaucoup en Bretagne, mais c'était pas forcément le cas. La pluie, on a dû l'amener, c'était de la fausse pluie.
Ah, c'est de la fausse pluie, oui, dans les Cèdres. Mais c'est incroyable, ça. On tourne en Bretagne, il pleut pas.
Non, mais du coup, je vous entendais dire qu'on a dû vaincre les éléments, et c'est pas forcément vrai. Oui, ce qui a été un gros challenge, c'était les marées. On était vraiment tributaires des marées. J'ai un souvenir avec Candice Boucher qui joue Damienne, où ma nounou, ma suivante. Et on a une scène où on commence à tourner, la caméra est sur moi et en fait, une fois qu'elle est sur elle, l'eau était jusqu'à nos genoux et on devait faire semblant qu'il n'y avait pas d'eau. Tout ça parce que le planning de la marée disait mais non, c'est bon. Et finalement, la nature reprend le dessus.
C'est quelle scène ça? C'est dans la grotte?
C'est à un moment donné, quand Marguerite est dans sa grotte et que Damien vient la voir, il y a un moment donné, on croit que je suis dans ma grotte au sec, mais non, j'étais vraiment sous l'eau.
Et vous avez donc aussi tourné quelques scènes en studio, notamment celle de l'intérieur de la grotte. Mm-hmm. Ça n'était pas que fait sur l'île, que vous avez reconstitué en Belgique. Mais pour le reste, c'était donc au cœur des éléments naturels, sur l'île d'Ouessant, en Bretagne. Micha, pourquoi avoir choisi cette île particulièrement?
Dans la vraie histoire, l'île, elle est...
C'est l'île des démons, l'île donc des démons, elle est appelée comme ça au Canada.
Ouais, Harrington Island, c'est une île à l'embouchure du Saint-Laurent. Et c'était compliqué de tourner au Canada. Sur la même latitude, on a Ouessant. Et j'ai fait des repérages dans les deux endroits. Et Ouessant ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau. C'est le même genre de géographie. Un caillou avec de la mousse battue par les vents. Salomé disait qu'on n'a pas lutté contre les éléments. On a quand même eu beaucoup de vent.
Du vent, mais pas de la pluie, ni du froid. Micha me disait avant de commencer à tourner, il faut que tu prennes des douches froides, il faut que tu te prépares, il va faire froid. Et finalement, il faisait pas froid. Alors oui, le vent, c'était fatigant. Mais j'ai pas eu froid tant que ça. J'avais froid quand j'étais dans l'eau.
Et vous avez pris des douches glacées pour vous préparer
oui,
au tournage?
Oui, franchement, ça aide. Hein. Mais 11 décembre, fin du tournage, je suis repartie aux douches chaudes.
Ah, moi, j'ai pas arrêté. Hein. Depuis le tournage, douche froide tous les matins, je continue, ça sera à vie. Ouais.
Et puis, autre détail qui n'en est pas un, en fait, ce sont les costumes. Et c'est là qu'entre en jeu notre métier de l'ombre du jour. Tzigane de Braconnier, vous êtes chef costumière pour le cinéma. Alors, est-ce que déjà, on peut expliquer plus ou moins ce que c'est? Vous designez les vêtements que vont porter les acteurs ou vous les fabriquez manuellement. Bah, c'est quoi votre poste?
En fait, c'est créatrice de costumes en règle générale quand on parle d'époque. J'ai dessiné tous les costumes. D'abord, on a fait une recherche. On commence par une grosse recherche.
Pour correspondre à l'époque. Donc à là, l'époque, on est au XVIe siècle.
Et pas seulement. Donc on a fait une recherche au XVIe siècle, mais ensuite, on a fait également une recherche contemporaine parce que chaque film est quand même une interprétation de ce qu'était cette époque-là.
Pour les films d'époque, la particularité des costumes, c'est qu'ils sont très lourds. Vous confirmez, Salomé Doval?
Oui, c'est vraiment lourd, surtout que les robes que Marguerite porte au début du film, elles sont vraiment volumineuses. Et à la fin, il fallait trouver une évolution pour qu'elle puisse se libérer, autant dans le sens littéral que figuré, de ce costume.
Vous connaissez le poids des robes que vous avez portées?
Non, toi tu sais, Tigane, ou pas?
Oui, bien sûr.
C'est vrai,
entre 7 et 10 kilos.
C'est énorme sec.
Et donc, ouais. Mouillé, c'est le double, hein.
Mouillé, c'est 15 kilos.
20 kilos, ah
et
ouais.
Et on a fait des tests dans l'eau de mer, aussi pour que parce qu'on avait très peur que les teintures partent, parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de teintures aussi pour rendre les robes plus vieilles, donner des effets.
Ah oui, on les patine. Comment on fait pour vieillir, enfin donner cet aspect authentique aux robes?
À l'argile, avec tout un tas de produits qu'on peut ensuite enlever. De toute façon, on fait assez attention parce qu'il peut y avoir des allergies de la peau, donc de toute façon, on travaille avec beaucoup de choses naturelle. Et puis là, on est sur un film d'époque, donc on avait envie d'avoir les effets. On a quand même fait une recherche sur ce qui s'utilisait à l'époque, et etc.
Ça aurait pu être des robes d'époque.
Pas
on
tout
a pris
à
des
fait.
Libertés avec le
on
corset.
A pris D'accord. des libertés. Vu qu'elle est enceinte, il fallait qu'on remonte un peu la taille parce que sinon, on ne pouvait pas faire exister ce ventre.
Pour en revenir aux conditions de tournage, est-ce qu'un tournage comme ça, à Tigane de Braconnier, au milieu des falaises, dans l'eau, le vent, le froid aussi, c'est le cauchemar pour l'équipe costume?
Oui, l'eau, en règle générale, c'est un peu le cauchemar d'une équipe costume, surtout en extérieur.
Ouais. Et l'eau de mer.
Et l'eau de mer,
en plus, ça attaque.
Finalement, c'est la fausse pluie qui a le plus
abîmé.
Parce que la seule qui a déteint, c'est la bleue, souffle sous la fausse pluie. Mais la mer nous faisait très peur. Finalement, elle a plus fixé que détruit. Bah, l'eau, parce que le comédien a froid. Moi, j'ai un souvenir avec l'arbre.
Oui.
On a vu la petite Salomé partir sur son arbre.
Pardon, on peut expliquer. La petite Salomé de Waal, vous êtes partie sur un arbre?
Non, mais il y a une scène sans en parler trop, parce que je pense qu'elle est importante dans le film. Il y a une scène où mon personnage se trouve seul au milieu de la mer. Et en fait, comme on ne va pas me laisser mourir de froid, vu que je suis longtemps dans l'eau et au-dessus de l'eau, il faut mettre des combinaisons
en dessous des
costumes. Et ça, moi, ça me tue le cœur, parce qu'on travaille des mois et des mois pour créer une silhouette et tout ça, puis qui est finalement un peu abîmée par des combinaisons qui sont là pour le confort.
Cette scène, on était à 200 mètres de la plage, dans l'océan, c'est autour de Ouessant, c'est l'océan Atlantique, et le vent s'est levé, les vagues ont commencé à se former, et à un moment, les vagues étaient énormes, et l'arbre s'est cassé, et Salomé s'est retrouvée sur un demi-arbre avec
coincé.
Le bateau autour, et on ne savait pas qui devait aller la chercher, on avait un problème de Comtech, et puis finalement, c'est le chef machinot qui a sauté avec un gilet qui a nagé et qui a été là stabilisé. Là, on a eu peur, on a vraiment eu peur. Et la mer montait, on était sur les bateaux, ça tanguait.
Des moments dangereux quand même pendant ce tournage.
Il y a eu plusieurs moments, il y a une autre fois où le chef machinot, toujours lui, le chef op est tombé, et il l'a rattrapé, et il s'est pris la caméra, il a eu
moi aussi, on a tourné sur l'île, et on a vraiment tourné dans des endroits qui sont pas vraiment praticables, donc où ils ont dû mettre des cordes pour pouvoir descendre, et moi je sais qu'à plusieurs fois j'ai failli glisser avec ces robes qui prennent vraiment beaucoup de place, parce qu'il y a de la boue, il y a de l'eau,
tout premier jour on est descendu d'une espèce
15 minutes
de marche escarpée, avec des lignes de vie, avec son énorme robe, c'est pas du tout encore vraiment l'habitude, nous c'est la première fois qu'elle la mettait, donc
vous avez dit non, la robe, vous faisiez plus de soucis pour les robes que pour les comédiens.
Mais Tigane avait trouvé un bon système où en fait elle me mettait des cordes que t'as cousues, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir après les remonter. Sur mon buste pour pouvoir avoir les pieds dégagés.
Comme un parachute, une espèce de bouée.
Ici, avec Ségolène Halluini, ça tourne.
Vous écoutez, ça tourne, et oui, c'était fou ces anecdotes de tournage, nous dit Salomé de Waal, qui est notre invitée aujourd'hui pour le film L'île de la demoiselle, qui sort au cinéma mercredi. Mais elle est aussi en compagnie du réalisateur Micha Wald et de la chef costumière Tigane de Braconnier, et c'est l'heure de la séquence souvenirs sensoriels de tournage. Salomé, parmi les quatre éléments naturels qui sont tous présents dans le film, on l'a dit, eau, vent, feu et terre, lequel vous a particulièrement marqué sur ce tournage?
Le vent. le vent, parce que d'être toute la journée avec le vent dans les oreilles, ça fatigue, mais en même temps j'ai adoré. Et vraiment, c'était pas facile comme condition de tournage, mais moi ça m'a aidé, le fait que le décor devienne presque un personnage principal.
Misha Wald, quelle odeur retenez-vous de ce tournage?
L'odeur des algues, oui. Et des embruns, cette odeur d'algues en permanence.
C'est super bon, hein, j'en ai mangé plein moi des algues pour ce film.
Ah, ouais. Mais comme votre personnage.
Ouais, et je suis persuadée que ça me fait une très belle peau.
Vous avez une très belle peau, donc allez tous aux algues. Non mais attendez, revenons sur cette odeur, parce qu'à un moment donné, elle vous a contraint à changer un lieu de tournage.
Oui, on avait choisi une plage à un moment, c'était en repérage avant le tournage, et puis il y a eu, on est en Bretagne, il y a eu beaucoup d'algues qui sont arrivées, et dans ces algues, il y a eu un baleineau qui s'est échoué, et la plage a été fermée, et il y avait une odeur mais pestilentielle. Et il y a le tournage d'endroit où la cache de Louis, à un moment où il va se réfugier, là il y avait vraiment une grande zone d'algues brunes, et quand la marée était basse, ouais, ça vraiment, ça fouettait, cette odeur était assez fort.
Salomé de Wals, quel est le son que vous retenez de ces lieux de tournage?
Le son, je vais redire le vent, hein, ça prend vent. Vraiment toute la place, le vent.
Ouais. Pour vous aussi, Tigane de Braconnier?
J'aurais dit les vagues, mais ouais. C'était les marées. Je me souviens, cette histoire de marée, c'était vraiment fort aussi.
Question logistique, vous séjourniez sur place?
Oui.
Donc sur l'île d'Ouessant?
Oui, dans le bourg.
Qui est très peu habitée, hein, cette île.
Oui, c'est 500, ça dépend, entre 300 et 600 habitants, ça dépend des périodes. Mais là, nous, on était en novembre, donc le mois des tempêtes, l'île est peu habitée.
Ah, mais il y avait quand même un colloque de gens qui venaient voir, c'est quoi, les ornithorynques?
Des ornithologues,
oui. Ah oui, non,
les ornithorynques, ce sont des animaux.
Mais en tout cas, je me rappelle qu'ils disaient, ah, il n'y a pas beaucoup de place parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir des oiseaux.
Ouais.
Et le tournage, en l'occurrence.
Donc, tiens, on était beaucoup quand même. Hein.
Et alors, est-ce que vous étiez en effectif réduit pour l'équipe de tournage, puisqu'on l'a
évoqué? C'était pas une grosse équipe, ouais. Et c'est plutôt pour le matériel. Pour aller à Ouessant, on prend des bateaux, où il y a un petit avion, 9 places, où parfois on l'a pris pour amener du matériel fragile ou qu'on devait absolument avoir, mais généralement on peut pas mettre de camion, c'est que des camionnettes, et le matériel était dans des containers mais de petite taille, donc tout le monde a dû faire un effort sur le matériel qu'on prenait, le nombre de personnes, et effectivement il n'y a pas une capacité de logement énorme. On a pris, je dirais, presque tous les gîtes de l'île. Mais c'était super. On était tous à 15 minutes de vélo, parce qu'on peut pas, il n'y a pas de voiture.
C'est que vous n'avez pas pu vous déplacer en voiture.
Vous faisiez quelques voitures, mais on était à vélo.
J'avais ma petite maison près d'un phare, et le matin, dans la nuit, je prenais mon vélo et j'allais au HMC pour me faire
habillage, maquillage, coiffure,
tout ça. Et je croisais des moutons qui étaient là sur la route. Puis fin de journée, pareil, je reprenais mon vélo et j'allais dans ma petite maison.
Des chèvres sauvages aussi, on a eu plusieurs, il y a des hordes de chèvres sauvages qui sont là depuis très longtemps et qui ont des zones à elles, et il y a plusieurs moments avec des boucs avec des très grandes cornes, et on s'est dit on espère qu'elles vont pas cacher notre scène. Il y a une scène dans le film où on a dû les chasser, et puis elles revenaient.
Oui.
J'ai pas envie de dire, elles revenaient.
Il y avait Mathieu, un des régisseurs, qui était là et qui vraiment il claquait des mains pour les faire partir du plan pour pas qu'on les voit, puisqu'il est censé avoir rien à manger, donc si on voit une chèvre à ce moment-là,
on se dit bah,
pourrait exactement. Il y a eu des crottes de lapin aussi, donc des lapins, et là on se disait on peut pas voir les crottes de lapin parce que sinon on va savoir qu'il y a des lapins. Il y a eu plein de petits trucs comme ça.
Salomé, ce personnage de figure de femme forte et assez inédit aussi à cette période de l'histoire, vous trouvez qu'il résonne aussi actuellement?
Bien sûr, mais je pense que c'est ça le but de faire un film d'époque, c'est de parler du passé pour encore mieux parler du présent. Donc à l'heure actuelle, moi-même qui suis quand même dans un milieu assez privilégié, on puisse pas tout à fait encore disposer de notre corps, donc c'est un sujet qui est vachement actuel, et pas que en France, pas que chez moi en Belgique, partout ailleurs. Donc il y a encore du taf à faire, et ça le prouve bien. Cette histoire parle du 16e siècle, ouais. Et pourtant, on est en 2026 et on doit encore aller dans la rue, nous les femmes, pour dire c'est notre corps, notre choix.
Vous, c'est vrai, vous le faites, vous allez aussi
sûr.
Dans la rue?
Ouais, bien sûr.
Ouais, moi aussi, j'étais le 8 mars à la manif,
c'est vrai, bien
pour
sûr.
La journée de la femme.
Ouais, c'est important.
Allez, Girl Power, avec ce film survivaliste du 16e siècle, avec un fort message féministe, vous l'aurez compris. L'île de la demoiselle sort au cinéma mercredi prochain. C'est avec Alexandra Lamy, Louis Pérez, Candice Boucher, Patrick Descamps et Salomé de Wals dans le rôle principal. Merci Salomé d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Dans sa tourne. Bravo Misha Wald pour ce film épique, donc dans tous les sens du terme.
Merci
Tigane de Braconnier d'être venue nous parler de votre métier de chef costumière. Ça tourne, c'est tous les dimanches et en replay sur ici.fr.
Vous écoutez Ici.
écoutez ici.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic when it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees.
Écoutez ici.
Keep
Mylène Farmer à l'écoute de votre radio ici pour bien commencer ce dimanche, dimanche 29 mars. Soyez les bienvenus.
Ici, les 6h, Louis Raspail, Valentine Letès.
Et on vous souhaite un très bon début de journée de la part de toute l'équipe d'ici matin, ce matin, 29 mars, jusqu'à 7h. Julie à la rédaction en chef, c'est Diana qui réalise l'émission aujourd'hui. Et c'est Marion qui vous accueille au 0810 055 056. Et puis pour toute l'actualité de ce dimanche, c'est vous Valentine Letès, bonjour.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Une semaine après la fin des élections municipales, un maire démissionne déjà.
Écœuré par des actes de vandalisme sur sa maison et sa voiture dès les premières heures de son mandat.
Et l'on en parle dans un instant dans les infos de 6h.
Ici.
Et c'est